Chapitre 51.
Ballard avait 10 minutes de retard lorsqu'elle arriva à son rendez-vous de 16 heures avec la procureure assignée au dossier de l'unité, Vicky Blodgett. Leur relation était simple et ouverte depuis toujours, mais cette fois-ci, avec les détails qu'elle oubliait ou lui donnait dans le désordre, Ballard n'était pas au mieux de sa forme lorsqu'elle lui résuma l'affaire. Elle avait quitté le labo complètement dans le brouillard. Et obnubilée par le besoin de retrouver Bosch, elle avait écarté l'affaire Olga Reyes de son esprit. « Laisse-moi bien comprendre le déroulement des faits dans cette histoire, » lui lança Blodgett. « Bosch a vu Rawls jeter la boîte dans la benne à ordures et vous avez attendu 3 jours pour la récupérer. Pourquoi ?»« Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'excuse de te faire tout confondre. Bosch ne l'a pas vu jeter la boîte. » C'est plus tard que l'idée lui étant venue que Rawls était peut-être en train de se débarrasser de pièces à conviction, il a décidé d'y aller. Soit en d'autres termes, Rawls jette la boîte, voit Bosch, retourne à sa voiture en courant et dégage. Mais pourquoi avez-vous attendu 3 jours avant d'y retourner? Non, parce que ça, c'est un problème. Si Bosch n'a pas vu Rawls jeter la boîte, on va avoir du mal à relier tout ça. « Oui, bon, mais qui d'autre que Rawls pourrait-il être? Cette benne est littéralement à 20 mètres de la porte du commerce d'un tueur en série. Bosch s'est fait sérieusement amocher dimanche. Il a eu le genou bousillé et des côtes pétées dans la collision, sans même parler de la balle qui lui a sifflé si près de l'oreille qu'elle lui en a arraché un bout. Il lui a fallu 2 ou 3 jours pour relier les pointillés, et c'est là qu'il a fait les poubelles. »
Blodgett rédigea une courte note sur un bloc de feuilles grand format en hochant la tête.
« Eh bien justement, reprit-elle, ces 3 jours-là, n'importe qui aurait pu jeter ta boîte. Et la fusillade avec Rawls ayant, comme tu le sais, beaucoup défrayé la chronique, quelqu'un aurait pu lire l'histoire et descendre là-bas pour y jeter la boîte dans l'espoir qu'on la trouve et la relie à Rawls. »
Le brouillard commençant à se dissiper dans sa tête,
Ballard regarda fixement Blodgett d'un air incrédule. « Tu te moques de moi ?» lui lança-t-elle. « Mais c'est quoi, ça? Ce gamin est en prison depuis 13 ans. Ce n'est même plus un gamin aujourd'hui, et il ne devrait plus y être. Et tu en es certaine à 100%. Oui, Rory Ochoa est innocent. Mais il y a la correspondance ADN. » Olga était sa copine, c'était ça, sa défense. Ce soir-là, ils avaient fait l'amour, puis il était rentré chez lui, et c'est là que le tueur est arrivé. Maintenant, on sait que c'est ça qui s'est produit. C'était Rawls, pas Ochoa. L'arme du crime était dans la boîte, et tu as le rapport d'autopsie devant toi. Traumatisme par objet contondant, impact de forme circulaire sur le crâne et de 2,5 cm de diamètre. Il l'a tué à coup de marteau, Vicky, c'est évident. Tout ça, je le sais, René, et ce n'est pas le problème. Il nous faut un lien direct avec Rawls. Y avait-il des empreintes sur la boîte, quelque chose qui la relie à lui? Non, je l'ai fait analyser et il n'y a ni empreinte ni ADN de Rawls. Mais rappelle-toi qu'il était en train de s'en débarrasser et qu'il a dû s'assurer qu'elle était nickel et qu'on ne pouvait pas la remonter jusqu'à lui. La seule faille dans son plan, c'est qu'on l'avait dans le collimateur et que Bosch l'a vu. Il n'avait pas prévu ça, et quand il a repéré Bosch, il a essayé de fuir. Non, il y a tout simplement trop de trous dans ton histoire. Je ne peux pas envoyer le dossier en face. Pas maintenant. Faut que tu m'apportes plus de preuves.
Le bureau de Blodgett se trouvait dans le Hall of Justice, juste de l'autre côté de Temple Street, où le DA avait le sien au 16e étage du bâtiment du tribunal pénal.
« À t'entendre, Bosch s'est disputé avec un résident du coin, » reprit-elle. « As-tu parlé à ce monsieur? A-t-il vu Rawls jeter la boîte ?»«
Je doute que ça ait été dans son champ de vision, » lui répondit Ballard. Mais non, nous ne lui avons pas parlé, je ne pensais pas que ce soit nécessaire alors que tout le reste était aussi évident.
Et tu n'as rien décelé dans l'affaire?
Non.
Quand Ochoa a perdu son dernier appel, le tribunal a ordonné la destruction des éléments de preuve. Ce que tu as devant toi est tout ce qu'il y a. Pas de scène de crime à revoir et aucun témoin à qui montrer des photos de Rawls. On n'a que la boîte. Blodgett hocha la tête et nota quelque chose. Alors désolé, René, dit-elle, mais je ne peux rien faire pour le moment.
C'est à cause du référendum révocatoire, c'est ça ?
Le district attornais faisait actuellement l'objet de cette procédure. Sa pratique de gauche tendant à rendre plus difficile l'envoi des délinquants en prison ayant pour résultat une augmentation de la criminalité dans tout le comté de Los Angeles. À la suite de nouvelles directives du 16e étage, n'exigeant plus le dépôt de caution dans les trois quarts des affaires criminelles, les procureurs ne pouvaient plus demander des pénalités plus lourdes lorsque le crime avait été perpétré avec une arme à feu et les poursuites dans les délits, voire dans certains actes de violence, se voyaient différées, transformant la justice en une espèce de porte-tambour. Les médias rapportaient fréquemment des histoires de suspects récemment libérés de prison sans caution, ou même pas formellement accusés, se livrant ensuite exactement au même genre de crime, parfois à peine quelques heures plus tard. Tenter de mettre tout cela sur le dos du Covid et du besoin de réduire la surpopulation carcérale pendant la crise n'avait pas empêché le district attorney de perdre le soutien des agences du maintien de l'ordre du comté, sans parler de celui d'une bonne partie de la population. D'où la campagne de référendum révocatoire bien financée qui s'annonçait. Que le bureau du district attorney ait récemment mis un innocent en prison, même si de fait cela s'était passé bien avant que l'actuel district attorney ne soit élu, n'allait pas vraiment aider celui-ci à garder son boulot.
Écoute, je ne vais pas nier la réalité de ce qui se passe en ce moment en face, reprit Blodgett. Mais je sais comment ça va se terminer. Je traverse la rue avec ton dossier dans son état actuel, et ils l'enterreront. Et Ochoa ne sera jamais libre.
Et donc tu me dis d'attendre jusqu'après le référendum, et d'obliger Jorge Ochoa à rester 6 mois de plus au pénitencier de Corcoran pour quelque chose qu'il n'a pas fait, sans même parler de toutes ces années qu'il y a déjà passées. Ce que je te dis, c'est que si j'apporte ça de l'autre côté de la rue aujourd'hui et que ton dossier est refusé, bonne chance pour réessayer plus tard. Et ce, quelle que soit la personne au 16e étage.
Ballard hocha la tête et tint sa langue. Elle savait que Blodgett n'était pas son ennemi et que la situation était ce qu'elle était. Et qu'il valait mieux qu'elle la garde de son côté, parce qu'elle aurait d'autres dossiers branlants à l'avenir, et qu'elle aurait besoin d'elle à ces moments-là. Elle savait aussi que ce n'était pas le seul endroit où elle pouvait apporter son affaire. Il y avait une autre manière de libérer Jorge Ochoa, à condition d'en accepter les risques.
« Ok, dit-elle. Merci de m'avoir écouté, mais sache que je reviendrai avec ça dès que le moment et les preuves seront adéquats. »«
C'est bien ce que j'espère, René, lui envoya Blodgett alors que Ballard se levait pour partir. » Celle-ci quittait l'unité des Major Crimes lorsqu'elle rougit de honte en repensant à la réunion qu'elle avait eue un peu plus tôt dans la journée, dans la maison même où Jorge Ochoa avait grandi. La méfiance envers la police et la justice dont le frère de ce dernier avait fait preuve venait d'être légitimée. Elle avait promis de rester en contact avec lui et avec sa mère, mais elle n'avait maintenant plus aucune idée de la manière dont elle pourrait jamais se présenter devant eux. En attendant l'ascenseur, elle jeta un coup d'œil à son portable et s'aperçut qu'elle n'avait pas de signal. Cela n'avait rien de surprenant, l'unité des Major Crimes se trouvant dans l'ancienne prison sise tout en haut du Hall of Justice. Que celle-ci ait été transformée en bureau quelques années auparavant n'empêchait pas les murs et les planchers d'être toujours en béton renforcé acier afin de prévenir les évasions. Et cette structure était célèbre pour la façon dont elle interdisait tout service de téléphone cellulaire. Ce ne fut qu'au moment où elle sortit de la cabine au rez-de-chaussée que tous ses SMS et messages vocaux lui parvinrent. Il y en avait plusieurs de Maddy. «
Appelle-moi, faut qu'on se parle tout de suite. Où es-tu ? » Il y avait aussi deux messages vocaux, mais elle ne se donna pas la peine de les écouter et préféra la rappeler dès qu'elle entra dans Spring Street pour rejoindre le P.A.B. Maddy répondit aussitôt et lui parla comme si elles étaient déjà en pleine conversation.
« C'est bizarre, » dit-elle. « En revenant dans la maison pour écrire un mot à mon père, j'ai trouvé une enveloppe avec mon nom dessus dans un tiroir. Je l'ai ouverte et je suis tombé sur une longue lettre où il me disait que j'étais une fille bien et solide et que je ferais une excellente policière. Un peu comme s'il voulait me faire savoir des trucs avant de disparaître, tu vois ?»
Ballard savait exactement tout ce que cela signifiait, mais ne voulait pas inquiéter Maddy plus qu'elle ne l'était déjà. « Eh bien, Maddy, commença-t-elle, c'est peut-être rien de plus que quelque chose qu'il... »«
Et après, bordel, je rate son appel, »
l'interrompit Maddy.
« J'étais tellement stressé par ce mot que je venais de trouver et le fait que je ne pouvais pas te joindre que je suis allé bosser au commissariat et c'est là qu'il m'a rappelé, alors que j'étais sous la douche. »«
Il a laissé un message ?»«
Oui, il a dit qu'il était à Key West et que tout allait bien, mais c'était un peu bizarre. »«
Comme quoi ?» Comment était-ce bizarre?
Eh bien, ça ne lui ressemble pas. Il disait aller bien, travailler sur une affaire et m'aimer très fort. Mais ça ne sonnait pas juste. Il disait que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée dans sa vie. Et moi, après le mot que j'avais trouvé, je ne sais pas. Je suis vraiment inquiète.
As-tu le numéro d'où il appelait?
Oui, et je l'ai rappelé dès que j'ai eu son message. C'est celui d'un hôtel à Key West. J'ai demandé sa chambre et ils me l'ont passé, mais il n'a pas répondu. Je l'ai fait trois fois, il ne répond toujours pas.
Comment s'appelle l'hôtel?
Le Pier House.
Ok, Maddy, je m'en occupe. Je te rappelle dès que je sais quelque chose.
Et écoute un peu, il y a autre chose qui s'ajoute à la bizarrerie de ce qui se passe avec lui.
Quoi?
Comme je cherchais du papier pour écrire quelque chose, j'ai ouvert un tiroir de sa table de travail, et c'est là que j'ai trouvé ce qu'il m'avait écrit. Mais en plus, il y avait aussi des pilules en vrac. À l'unité où je travaille, on a servi de base arrière à suffisamment d'opérations anti-narco pour que je sache reconnaître du fentanyl de contrefaçon quand j'en vois. Je ne sais pas où il a eu ces trucs, mais bordel de merde, il a du fentanyl dans son tiroir.
Cela confirmait l'info que Ballard avait eue un peu plus tôt au labo. « Ok, Maddy, » dit-elle. « Essaie de garder ton calme, il y a forcément une explication à tout ça. Et il nous la donnera quand on le retrouvera. Alors, on se calme jusqu'à ce moment-là. »«
D'accord, je vais essayer. Mais je t'en prie, trouve-le. Et dis-moi comment je peux t'aider, s'il te plaît. »«
Je comprends, et je le ferai. » Ballard raccrocha et toujours avec son portable chercha le numéro de la police de Key West sur le net. Elle l'appela, s'identifia et demanda qu'on lui passe le commandant de service. Elle informa alors un certain lieutenant Burkey qu'elle avait besoin qu'on aille vérifier d'urgence l'état de santé d'un client du Pier House. Elle lui donna tous les renseignements utiles sur Bosch et précisa qu'elle avait besoin qu'on la rappelle dès cette vérification effectuée. Ne sachant pas combien de temps il faudrait à la police de Key West pour réagir, elle appela ensuite l'hôtel et parla au chef de la sécurité. Elle lui expliqua la situation et lui demanda de rejoindre la chambre de Bosch pour voir comment il allait. Il lui répondit que le règlement de l'établissement lui interdisait de forcer la porte d'un client, à moins que la police ne soit présente. « Elle est en route, » lui dit Ballard. Elle raccrocha et se sentit inutile à attendre ainsi que le rappel des gens qui se trouvaient à plus de 4 500 km de là. Elle ouvrit une fenêtre de recherche sur son portable et tenta de calculer combien de temps il lui faudrait pour rallier Key West. Un quart d'heure plus tard, elle réserva une voiture de location à sa descente du dernier avion de la journée pour Miami lorsqu'elle reçut un appel avec code régional 786.
« Police de Key West, Bob Burkey à l'appareil. »«
Vous avez vérifié sa chambre ?»«
Oui, mais il n'y avait personne. » Bosch n'y est pas et il n'y a rien qui pourrait indiquer un problème. Il a deux chemises accrochées à un porte-manteau dans la penderie, une brosse à dents et un sac de marin. Son portefeuille est dans un tiroir à côté du lit. Un de mes hommes a posé des questions à la ronde et le barman du chartroom lui a appris que Bosch était passé un peu plus tôt et qu'il s'était payé un bourbon, pas des moins chers. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Mais le barman a aussi ajouté que Bosch cherchait à en savoir plus sur un certain Davy Byrne, un Irlandais. Ça vous dit quelque chose ?
Ballard hésita. Tout laissait penser que Bosch pouvait avoir localisé Finbar McShane, ou l'alias dont il se servait.
Ce n'est pas le bon nom, dit-elle, mais il traque un suspect dans une affaire non résolue sur laquelle nous travaillons. Et notre suspect est bien irlandais.
Alors il l'a peut-être trouvé,
dit Bucky.
Et cela étant, il n'y a aucun signe de problème dans sa chambre, je vais creuser encore et vérifier auprès de nos équipes de jour pour voir si elles ont entendu parler de quoi que ce soit.
Faites-le, et rappelez-moi dès que vous saurez quelque chose. Je prends l'avion ce soir et serai à Miami à l'aube.
C'est entendu. Et ah, j'allais oublier. Il y avait encore un truc dans sa chambre, une enveloppe sur le bureau, scellée et adressée à une certaine Renée. Cela veut-il...
Oui, René, c'est moi. Mais pourquoi aurait-il laissé un mot pour moi là-bas? Je suis à Los Angeles.
Ça, je ne sais pas. Peut-être savait-il que vous prendriez l'avion.
Cette idée la fit réfléchir. Bosch était-il en train de la manipuler à plus de 4 500 kilomètres de distance?
Rien de tout cela ne tient la route, dit-elle. Et puis, pourquoi serait-il parti sans son portefeuille? Ça n'a aucun sens.
Il était dans un tiroir, peut-être qu'il l'a oublié, ou qu'il ne voulait pas risquer de le perdre.
Aucune de ces deux possibilités ne lui semblant plausible, l'inquiétude qu'elle éprouvait pour Bosch augmenta.
« Pourriez-vous y retourner et ouvrir l'enveloppe qui m'est adressée ? » demanda-t-elle.
« Non, on ne va pas pouvoir sans cause raisonnable. Pour l'instant, il n'y a ni crime ni quoi que ce soit qui le prouve. » Nous ne pouvons pas aller plus loin que la vérification que nous avons menée. Je suis certain de ne pas avoir à vous rappeler le 4e amendement et ce qui concerne les fouilles et saisies illégales.
En effet, lieutenant. C'est juste que...
Je reviens vers vous si notre équipe de jour m'apprend quelque chose. Ça vous va, inspectrice ?
Ok, répondit-elle. Merci. Elle raccrocha et regarda l'heure. Le dernier vol de la journée qu'elle avait décidé de prendre devant décoller dans 4 heures, elle avait le temps de retrouver Sheila Walsh et de comprendre ce qui avait envoyé Bosch à Key West.